Elles nous permettent de manier, de tripoter, de gratter, de triturer. Elles représentent une part essentielle de nos activités. Nous les utilisons dès le ventre maternel. Le dossier de l'émission s'intéresse donc aux mains cet après-midi, organe indispensable qui occupe une place évidemment très importante dans notre cerveau. Et je reçois dans un instant un psychanalyste et un chirurgien de la main pour comprendre ce que nous faisons d'elle. Et vont répondre à vos messages, à toutes vos questions. Il y a beaucoup de choses à dire autour des mains. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, la part du nucléaire civil dans le monde qui est en train de passer derrière les énergies renouvelables.
Oui Mathieu, un rapport indépendant à paraître demain montre qu'il n'y a plus vraiment de débat. Le nucléaire est distancé par le solaire et l'éolien. On en discute avec l'auteur principal de ce texte, Michael Schneider.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati et Thomas Levété.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Nos mains qui nous intéressent donc aujourd'hui dans le dossier de l'émission avec mes invités, le chirurgien Adil Trabelsi et le psychanalyste Darian Leader. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue. Darian Leader, l'usage de nos mains est complètement en train de changer là depuis quelques temps. On vit une période particulière.
C'est ce que j'ai pensé en commençant à faire la recherche pour mon livre. Partout où on va, les gens sont en train de tapoter, de cliquer, de naviguer, de défiler avec leur portable. Donc on peut avoir l'idée que l'usage des mains est vraiment dans un moment très important de changement. Mais de plus en plus que j'ai recherché l'histoire, on voit que depuis des centaines d'années, les gens ont toujours eu des technologies de la main, des petits objets qu'ils gardaient en main et qu'ils manipulaient sans cesse.
Adil Trabelsi, est-ce que vous, en tant que chirurgien, vous enregistrez une recrudescence de problèmes de main liés à ces usages modernes à évoquer rapidement?
Alors bien évidemment, la fonction de la main évolue, tout comme évolue la société, et on en veut pour preuve des nouveaux troubles musculo-squelettiques qui sont liés directement à la nouvelle utilisation des mains, aussi bien sur les mobiles que sur les consoles de jeu. Oui. Donc effectivement, la main est un outil, c'est un outil précieux, mais aussi fragile, qui peut quelquefois nécessiter une prise en charge.
Voilà, les temps changent donc, on aura plein de choses à se raconter en complémentarité avec vos deux disciplines, avec donc cette exploration des mains et les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la Une de la Science.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
La transition énergétique n'est plus pour demain puisqu'elle a eu lieu. Eh bien, cette année, un rapport indépendant sur le nucléaire mondial montre que le renouvelable vient de prendre le dessus.
The revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be televised. Will not be televised. Not be televised.
Voilà, la révolution ne sera pas télévisée, refrain de Gilles Scott-Heron, sorti en 1974 et repris mot pour mot dans l'édito du rapport mondial sur l'industrie du nucléaire à paraître demain et qui est très clair dans son analyse. Axel, l'énergie nucléaire coûte aujourd'hui plus cher que les énergies renouvelables. On en parle avec l'auteur principal de ce rapport, l'analyste Michael Schneider.
Bonjour Michael Schneider.
Bonjour.
Vous êtes consultant dans le domaine de l'énergie et de la politique nucléaire. Vous avez dirigé la rédaction de ce rapport. Également en studio avec nous, Hervé Kempf, pour le site reporter.net. Hervé, il faut vraiment parler de transition énergétique au passé, puisque selon ce rapport, elle a eu lieu entre 2016 et 2017.
Et oui, si l'on considère que les énergies renouvelables sont l'avenir de la production électrique, eh bien cette transition, c'est le présent. C'est ce que montre le World Nuclear Status Report, le rapport qui sera donc publié demain et que vous présente en avant-première France Inter et Reporter. Et bien, ce qu'il dit, c'est que l'industrie électrique a fait son choix. Elle investit massivement dans l'éolien et le solaire et délaisse peu à peu le nucléaire qui devient une industrie du passé, en raison de la baisse rapide du coût de l'éolien et du solaire. Alors, vu de France, on a déjà l'impression que le nucléaire est en grande crise. Areva a été sauvé de la faillite par l'argent du contribuable. L'EPR de Flamanville subit un énorme retard. Le projet Cigéo de déchets nucléaires est mis en doute sur le plan technique. Mais c'est pas seulement en France que ça se passe, c'est dans l'ensemble du monde.
Et surtout, d'ailleurs, dans l'ensemble du monde.
C'est dans l'ensemble du monde que ce déclin de nucléaire est le même, avec des nuances selon les pays, bien sûr. Et c'est ce que va nous expliquer Michael Schneider.
Alors, Michael Schneider, pourquoi 2016? Qu'est-ce qui s'est passé de si important cette année en termes d'énergie dans le monde?
Je pense que c'est surtout sur ces deux dernières années, 2016 puis la première moitié de 2017, on voit une espèce d'accélération, un boost incroyable des énergies renouvelables, notamment de l'éolien et du solaire, où on passe des échelles. Et puis, en parallèle, on voit quand même quelque chose d'absolument historique, c'est-à-dire la faillite du plus grand constructeur de centrales nucléaires dans le monde, l'américain Westinghouse, qui avait été racheté il y a quelques années par le japonais Toshiba. Et puis, vous l'avez dit, Areva, comme un des leaders mondiaux dans le domaine, qui a été rattrapé de justesse de la faillite technique par l'argent public. Donc les deux évolutions combinées font qu'il n'y a pas photo. C'est clair où le voyage va, c'est clair que la révolution, elle a eu lieu. On est en plein dedans. Donc ce n'est pas quelque chose à venir, c'est le présent.
Alors, Hervé l'a dit, ce n'est pas la France. Quels sont les principaux acteurs contributeurs de cette révolution ?
Alors, curieusement, on a bien en tête l'Allemagne qui a fait beaucoup de bruit avec son départ son abandon du nucléaire après le début de la catastrophe de Fukushima en 2011. Mais en fait, aujourd'hui, c'est surtout la Chine qui est devenu le moteur de cette révolution. Et c'est d'autant plus étonnant que la Chine, c'est le seul pays qui investit en parallèle encore de façon considérable dans le nucléaire. Mais même cet investissement est en train de s'effriter. On voit vraiment aujourd'hui des chiffres de démarrage de nouveaux sites de construction de réacteurs où, pour vous donner un exemple, dans la première partie de l'année 2017, il y a eu un seul démarrage de site, de nouveaux sites de réacteurs, c'était en Inde. Donc même pas, pendant les premiers mois de l'année, il n'y a même pas eu un seul nouveau chantier, même pas dans le pays qui est le plus actif, qui est la Chine. Et en parallèle, on voit des chiffres absolument spectaculaires, notamment dans le solaire, où on voit que la Chine a pratiquement doublé son déploiement de photovoltaïque dans le pays dans les premiers 6 mois comparé à l'année d'avant. Donc c'est une vraie accélération.
Qu'est-ce qui explique ce tournant justement en faveur de l'éolien ou du solaire, Michael Schneider, par rapport au nucléaire ? C'est vraiment le coût, une question économique avant tout ?
C'est très clair. C'est très clair que ce qui a eu... là où il y a eu une volonté politique hier, il y a une compétitivité économique aujourd'hui. Quand on voit que un quart de la flotte nucléaire mondiale qui est aux États-Unis, en moyenne, a eu en 2015 un coût de fonctionnement, donc je ne parle pas d'investissement, je ne parle pas des frais en dépenses de capital au départ, mais uniquement la maintenance et le combustible, on est à plus cher que les prix les moins chers aujourd'hui sur le marché pour du nouveau solaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment un driver, ça donne une dynamique extraordinaire.
Hervé, est-ce qu'il y a eu l'arrivée de M. Trump aux États-Unis, qui est un fervent partisan du charbon ? Est-ce que le charbon n'est pas en fait le vrai challenger maintenant des énergies renouvelables plutôt que le nucléaire ?
Ben, je dirais curieusement ni l'un ni l'autre. Le support, le soutien au charbon du président Trump, qui par ailleurs est aussi un fervent adepte du nucléaire, ça n'a grosso modo rien changé. Aujourd'hui, sur le marché américain, c'est clair que c'est d'un côté les renouvelables et de l'autre côté les gaz de schiste qui sont la concurrence. Et puis, il faut dire ce qu'il y a. Je veux dire, c'est en dessous de 20% pour l'instant aux États-Unis avec le nucléaire et le nombre de réacteurs est en baisse. Donc, avec l'abandon au mois de juillet de 2 réacteurs sur 4 en construction, la tendance est claire.
Alors, d'un point de vue technique, technologique, depuis quelques années, rien n'a changé dans l'éolien et le solaire. Qu'est-ce qui explique vraiment qu'aujourd'hui, 1 mégawatt d'éolien ou de solaire est moins cher qu'un mégawatt de nucléaire ?
Le mégawatt installé en termes d'énergie renouvelable est déterminé surtout qu'on appelle les soft costs, c'est-à-dire les coûts qui sont tout sauf le matériel, ou grosso modo, c'est des prix de marché mondial. Si vous achetez un panneau solaire aux États-Unis, en France ou en Allemagne, il y a très peu de différence. Par contre, pour tous les autres coûts, c'est-à-dire si c'est la marge de bénéfice ou si c'est la publicité, si c'est les frais d'installation, etc. Là, ça dépend très fortement de la densité des installations. C'est-à-dire le plus dense d'installations par habitant, le moins cher l'installation. Et c'est là où on voit aujourd'hui les grands changements et les grandes différences aussi entre les pays.
Michael Schneider, pour terminer très vite parce qu'on est en retard, la France, justement, dans ce panorama la mondiale.
Je dirais quand même que pour la première fois, la France entre dans le top 10 des investisseurs dans les renouvelables, mais la France est incroyablement à la traîne par rapport à d'autres pays. Et on voit que aujourd'hui, l'équipement en centrale nucléaire est devenu une vraie barrière à l'innovation. On voit que la décision des Allemands et d'autres pays d'ailleurs de faire autre chose a donné un boost incroyable à l'innovation et à la prévisibilité, à la visibilité en termes d'investissement.
Voilà, donc encore beaucoup d'efforts à faire. On aura tous les détails demain, Axel. Hein.
Avec ce rapport qui sera disponible à partir de 11h.
Voilà, où tous les chiffres sont dévoilés. Et puis on retrouvera bien sûr les analyses sur reporter.net. Merci beaucoup.
Ça sera sur le web et c'est gratuit.
Eh bien, très bien.
Le téléchargement.
On le mettra en lien. Merci beaucoup à vous, Michael Schneider. Au revoir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité. Un stylo pour aider les chirurgiens à retirer les tumeurs, mis au point par une équipe américaine. Cette spectrométrie de masse miniature en forme de crayon deviendra certainement le meilleur ami du scalpel. En effet, d'une simple pression sur la chair, ce stylo est capable de faire la différence entre une cellule saine et une cellule cancéreuse. Après 3 secondes seulement de contact, la zone chargée de protéines lipides et métabolites est analysée et le diagnostic est immédiat. Il permettra donc de mieux cibler les tissus et retirer, bien évidemment, le reste de cellules cancéreuses. Le cas échéant. Les chauves-souris percutent les grands immeubles car elles sont incapables de voir les baies vitrées. Une étude montre que le système d'écolocation des chauves-souris est mis en défaut par les surfaces les plus lisses. En effet, les ondes sonores émises par ces animaux, renvoyées dans toutes les directions par les surfaces rugueuses, sont seulement réfléchies dans une seule direction par les surfaces lisses et ne reviennent pas nécessairement jusqu'à leurs oreilles. La seule solution pour les chauves-souris est donc d'arriver de face, une approche de côté rendant les immeubles complètement invisibles à ces animaux. Un problème à l'origine de nombreux accidents chaque année. Et puis enfin, voici les premiers dos d'âne intelligents mis au point par des ingénieurs espagnols. Ils s'aplatissent lorsque vous roulez dessus doucement et ils restent bien bombés et fermes lorsque vous roulez vite. Le secret de fabrication de ces nouveaux ralentisseurs n'est pas technologique mais physique puisqu'ils sont construits à base de fluides non newtoniens, des solides dont la résistance dépend de la force qu'on leur applique. Sollicités fermement, ils sont durs comme de la pierre et manipulés avec douceur, ils coulent comme de l'eau. La vidéo d'ailleurs de ces dos d'âne particuliers est sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, un dossier sur les mains dans un instant.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vides. Mains sont livides, vides. Le seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié, à mes solitudes immenses. Ton visage ne sera jamais sentier, comme tu regardes au dehors. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. And if you say just follow, I stay with you. Kiss my station. Kiss my station. Patience comme certitude.
à trois, fil, fil, fil. Et à trois, fil, fil, fil. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire. Que tu respires, pire, pire. Partenaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Is my station. Is my station.
Pour le carpe, 5 au métacarpe, 14 aux phalanges, et en tout, 27. C'est le nombre des os de la main. 27 en tout.
La tête au carré.
Et voilà, extrait du film La Bête à 5 doigts, sorti en 1946. Ce sont donc nos mains au cœur du dossier de la tête au carré cet après-midi pour en explorer ensemble les usages et les symboles. Et pour en parler, Adil Trabelsi, vous êtes chirurgien de la main à SOS Main Avignon et vous êtes secrétaire général de la Fédération des services Urgence Main. Et puis Darian Leader, vous êtes psychanalyste à Londres et auteur de ce livre qui sort en France chez Albin Michel, Main, ce que nous faisons d'elle et pourquoi, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Darian Leader, est-ce que vous observez d'abord beaucoup les mains de vos patients sur le divan? Est-ce que ça vous intéresse?
Ça m'intéresse, mais j'essaye de ne pas trop observer ça. Parce que dans mon livre, je veux explorer la fonction des mains, pas comme symbole, pas comme représentation, pas comme livreur d'un sens caché, mais plutôt la façon qu'on gigote les mains, qu'on frictionne, qu'on manipule les objets qu'on sert. Et donc, je pense pas qu'on peut trouver un langage universel des mains comme on a fait l'effort auparavant. Il y a beaucoup de livres dans les derniers siècles qui essaient de trouver le sens caché des mains. Mais mon projet est très différent. C'est plutôt de faire l'histoire de la façon dont les gens gigotent.
Ouais, et vous montrez qu'on vit une époque tout à fait particulière. Hein. C'est ce qu'on
oui,
se disait
absolument,
tout à l'heure.
Parce que partout où on voit maintenant, les gens sont en train de manipuler les portables. C'est comme au moment qu'on entre dans un air presque sans tabac, qui est vraiment en train de disparaître dans l'Occident au moins, on voit de façon étonnante comment les portables viennent coloniser exactement les mêmes espaces corporels et sociaux.
Ah oui, on a remplacé la cigarette par les portables, au fond, un petit peu.
C'est quelque chose qui commence. Et on peut dire que c'est la raison pour laquelle les taches nicotine, ça n'a jamais vraiment marché.
Ah oui.
Parce que ça ne donne pas. Les patchs, ça ne donne pas à manipuler.
Ouais. Adil Trabelsi, d'abord un mot, parce que vous, en tant que chirurgien, évidemment, vous voyez ces mains souvent en souffrance, en consultation, mais vous êtes collectionneur aussi de mains, donc vous êtes un observateur de ces organes.
Alors, en fait, bien évidemment, quand on approche la main, quand on soigne la main, on finit par être fasciné par cet outil, par cet organe d'essence, et la main ayant un côté très esthétique, c'est vrai que j'ai commencé il y a 20 ans une collection de sculptures de la main, pour en avoir maintenant quasiment une centaine dans mon bureau.
Ouais.
C'est vrai qu'on est attiré par la main, parce que c'est quelque chose de beau, quelque chose d'utile, quelque chose de la vie de tous les jours. Et j'ai la chance, en fait, de les examiner, donc de les toucher. Je touche des mains toute la journée, finalement.
Ouais.
Et ça, c'est un véritable plaisir, parce que finalement, on devient intime avec la main, c'est la main du patient. Il faut aussi jamais oublier qu'au bout de la main, il y a un patient, effectivement, parce que il faut pas rentrer dans la technicité et se dire je soigne la main et j'oublie qu'il y a au bout de la main.
Et ces moulages, ils vous racontent des choses. C'est-à-dire que quand vous voyez une paire de mains comme ça en face de vous, ou une main seule d'ailleurs, elle peut exprimer différentes situations, différents sentiments.
Alors bien sûr, je vous apprends rien en vous disant que le langage des mains est un langage séculaire, que ça a été dit et redit. J'ai demandé il y a quelques années à une de mes patientes de me sculpter, parce qu'elle m'a dit qu'elle sculptait. Sculptez-moi une main qui souffre. Eh bien, elle a trouvé le moyen, simplement dans la sculpture qu'elle a fait, de véritablement exprimer cette souffrance. Et moi, je trouve ça absolument fabuleux. Ouais. Donc, quand je regarde ses mains dans ma bibliothèque, effectivement, chacune d'elles me raconte une histoire.
Darian Leader, les mains, elles fonctionnent déjà chez le bébé, dans le ventre de sa mère, hein?
Oui, absolument. Depuis 18 semaines après conception, on peut voir un bébé en train de sucer son pouce ou ses doigts. Ouais. Et souvent, les enfants sont nés avec des bleus sur les mains à cause de ça.
Ouais. Alors l'appréhension, justement, c'est la première fonction de la main aussi?
Il y a beaucoup de questions sur les premières fonctions de la main. Et ce que les chercheurs ont trouvé vraiment au début du XXe siècle, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est le fait que la main, au début, ça fonctionne vraiment en coopération avec la bouche. Quand la langue pousse, le doigt serre. Quand la bouche se referme, les muscles de la main se referment aussi. Et on a fait même des films à l'époque, à Yale University, dans les années 20 et 30, où on voit cette coordination extraordinaire entre la musculature de la bouche et de la main. Donc on peut dire qu'au début de la vie, la main, ça fait vraiment partie de la bouche.
Ouais, Adèle Trabessy, vous êtes amenée aussi à avoir des bébés en consultation, malheureusement. Hein.
Malheureusement, encore que les moyens de sécurité sur les outils ont été bien améliorés, mais il nous arrive de prendre en charge des bébés. Ils ont la particularité, effectivement, d'avoir, enfin les bébés et les enfants ont un courage quand même assez incroyable, parce que même blessés, ils continuent à faire face, à être courageux. Ce qui caractérise la prise en charge de la main chez l'enfant, c'est la capacité avec laquelle ils vont pouvoir récupérer. C'est-à-dire aussi bien au niveau de la régénération nerveuse quand il y a un nerf coupé qu'on le répare, qu'au niveau de la rééducation dont ils n'ont quasiment pas besoin, là où un adulte nécessiterait plusieurs mois de rééducation.
Ouais, ça va donc beaucoup plus vite chez l'enfant.
Ça va beaucoup plus vite chez l'enfant.
Pourquoi ? Parce que les cellules se régénèrent beaucoup plus vite.
Absolument, les cellules
se
régénèrent beaucoup plus vite. Le lien entre le cerveau et la main est en pleine maturation. Et donc, on est véritablement dans un éclair, dans une foudre. Et donc, tout va beaucoup plus vite que chez l'adulte.
Ouais. Pourtant, le cartilage, lui, ne se régénère pas, hein, c'est ça ?
Alors, le cartilage ne se régénère pas. Quand on a le malheur d'avoir une lésion du cartilage de croissance chez un enfant, il peut y avoir des choses irréversibles, des déformations qu'on arrive fort heureusement quelquefois à corriger à l'âge adulte. Mais le cartilage, lui, oui, ne se régénère pas pour le moment. On n'a pas trouvé encore le moyen.
Darian Leader, alors vous êtes intéressé justement par toutes ces observations hein, sur l'enfant, par exemple, qui évidemment, avec ses mains, entre dans la vie et au contact de la vie. Puis vous êtes aussi intéressé par les mains qui lâchent les objets.
Oui, tout à fait. Parce que pendant très très longtemps, on a mis l'accent sur les mains comme quelque chose qui sert, qui ne lâche pas. Mais c'est un moment très très important dans la vie d'un enfant quand il arrive à vraiment lâcher quelque chose. Ça se voit par exemple dans le travail de faire les lacets, mais aussi comme c'est un grand moment quand un enfant peut arriver à bien doser son dentifrice. Sans mettant trop sur le brosse à dents. Ça exige un mouvement très très fin des mains.
Ouais, alors justement, là aussi, du côté du chirurgien, le lâcher, le bon lâcher prise, c'est aussi le signe que la main est parfaitement remise, hein, j'imagine, pour vous.
C'est
une partie
cas,
des tests.
Le signe que la coordination est en cours de récupération, c'est la main doit pouvoir attraper, elle doit pouvoir attraper pas trop fort. Qu'est-ce qui fait qu'on tient un œuf sans le casser ni sans le faire tomber? C'est qu'on le tient juste à la bonne force. Et donc tout ça, c'est effectivement une histoire de coordination et le lien entre le cerveau et la main est absolument essentiel. La main occupe une place énorme dans le cerveau par rapport aux autres organes des sens.
C'est-à-dire comment ça se caractérise dans certaines zones de notre cerveau?
Absolument.
On a des réseaux dédiés spécifiquement aux mains.
Aussi bien au niveau sensibilité qu'au niveau motricité. Et la main occupe non seulement une grande place, mais le pouce occupe la plus grande place parmi les différents doigts de la main.
Et pourquoi alors?
Parce que le pouce est aussi bien sur le plan sensitif que sur le plan moteur, le principal moteur de la fonction de la main.
Ouais.
C'est ce qui nous différencie du primate.
Ouais. Darian Leader, vous voyagez souvent, évidemment, et avec vos ouvrages sur les mains, vous me disiez que vous êtes fait arrêter à la frontière française avec une valise remplie d'ouvrages sur la main coupée, c'est ça ?
Je suis parti en vacances avec tous les films faits sur les mains, parce que j'ai voulu faire de la recherche là-dessus. Et à la douane, on m'a fait ouvrir ma valise et ils étaient très très curieux de voir que j'avais une quarantaine de films sur les mains qui deviennent possédées par le diable, les mains coupées.
Il y a beaucoup de choses là-dessus.
Oui, ça c'est quelque chose aussi, qu'il existe des films et des histoires, des contes, des romans, où une partie du corps devient possédée par un démon, par le diable, ça peut arriver aux yeux, même le nez, un sein, mais en fait ça c'est rien comparé au numéro des cas où il s'agit des mains. Donc il y a quelque chose au niveau des mains qui se prête à ça, c'est-à-dire que les mains c'est quelque chose évidemment qui sont c'est des organes de notre volonté, de notre matrice, sur la nature, comme nous ont dit les philosophes depuis longtemps, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous désobéit.
Ouais. Et vous aimez ça, ça vous passionne.
Ça m'intéresse beaucoup, ça. Ouais. Que le corps nous désobéit.
Ouais. Ces mains autonomes aussi, c'est ça, qui peuvent prendre le pouvoir aussi sur l'homme.
Oui,
voilà. Ils vous ont relâché les douaniers assez rapidement, alors, après avoir vu ces films tout à fait spécifiques.
Vous laissez partir.
Alors, dans ce contexte, il y a ce qu'on appelle le syndrome de la main étrangère, dont vous parlez très bien dans votre livre, et qui est en fait lié à des problèmes au niveau du cerveau, au niveau du corps calleux, au niveau du lobe frontal, qui fait que, en tout cas, la sensation que peut avoir le patient, c'est que sa main ne lui appartient plus. Et donc, du coup, la fonction, le mouvement de la main est vécu comme étant réalisé par quelqu'un d'autre. J'en veux pour la petite histoire, une dame qui allumait une cigarette avec sa main dominante, donc saine, qui portait la cigarette à la bouche et qui voyait tout de suite sa main étrangère récupérer la cigarette et la jeter devant elle.
Ouais. Et ça arrive souvent ?
Alors, fort heureusement.
Il y a de nombreux cas dans la littérature scientifique ou pas ?
Dans la littérature, oui. Ouais. Dans la pratique de tous les jours, beaucoup moins, bien évidemment. Mais le syndrome de la main étrangère existe et il est directement lié à un trouble au niveau du cerveau.
Ah, 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 ah
Agraf et Mess Sparrow à l'instant sur France Inter. Adil Trabelsi est chirurgien, Darian Leader est psychanalyste et tous deux s'intéressent aux mains. C'est l'objet de notre discussion avec vos messages nombreux qui arrivent sur le site de l'émission franceinter.fr et puis également les réseaux sociaux. Alors il y a Cécile qui nous dit ceci, professeur en école de musique depuis une vingtaine d'années. J'ai l'impression de voir de plus en plus de débutants avec ce que j'appelle des mains moufles, c'est-à-dire des enfants qui ont du mal à prendre conscience de chacun de leurs doigts et à les solliciter séparément les uns des autres. Mes observations n'ont rien de scientifique, mais sont-elles corroborées par des études? Alors, Adil Trabelsi, dans ce monde moderne où la main change beaucoup de fonctions, qu'est-ce que vous observez à ce sujet-là?
La main est effectivement, elle devient ce qu'on en fait, et ce qu'on en fait dans sa petite enfance, en fait, et dans son enfance. Donc, je pense que la dextérité a peut-être une petite part d'inné, mais elle a beaucoup de part de travail. Donc peut-être qu'effectivement, l'utilisation des mains chez les enfants est différente de ce qui pouvait être il y a 20 ou 25 ans, mais il n'y a pas véritablement... Nous ne sommes pas en train de nous orienter vers des enfants qui auront plutôt des nageoires que des mains. La main reste quand même l'essentiel dans l'apprentissage.
L'évolution va laisser quand même un petit peu de temps. Darian Leader, sur ce message.
Oui, j'ai pas de réponse précise à ça, mais ce qui est très intéressant au niveau de la formation musicale, c'est le fait que quelqu'un, par exemple, qui spécialise dans le piano... et qui veut, par exemple, apprendre la guitare, va éviter de le faire en sachant que même si, au niveau conscient, cette personne ne veut pas affecter la pratique de piano, le fait de devenir bien dans la pratique de guitare va changer le style au piano. C'est-à-dire que c'est un souvenir au niveau des muscles.
Ouais. Jean-François nous dit, usager de téléphone portable et d'ordinateur comme tout le monde, je constate ma difficulté à prendre un stylo pour écrire de longues lettres. Avez-vous ce type de témoignage dans votre cabinet, Adil Trabelsi?
Absolument, absolument. Je pense que les mains se perfectionnent dans ce qu'on en fait tous les jours. Et puis si on écrit moins, eh bien, on est moins bon à l'écriture. Je pense que ça va de soi, c'est du bon sens. Ouais. Mais quand je vois les jeunes envoyer des SMS avec 2 pouces à une vitesse... vitesse de la lumière, je suis absolument effaré par la dextérité qu'ils peuvent avoir là-dessus, peut-être au détriment de la dextérité qu'ils peuvent avoir à écrire sur du papier.
Ouais, ça fait partie justement de ces changements dont parlait tout à l'heure Darian Leader et qui sont vraiment essentiels aujourd'hui.
Je pense, mais ça a été de tout temps. Je veux dire, le mobile, effectivement, dans l'utilisation de la main dans la vie de tous les jours, est venu suppléer effectivement la cigarette dans les années 50. Darian disait lui-même dans son livre que c'est une coïncidence que finalement, au moment où on fume moins, on tripote plus des mobiles.
Darian Leader.
Je ne pense pas que c'est une coïncidence. Mais j'ai une question là-dessous à poser à Adil. Les enfants et les jeunes peuvent apprendre très 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 vite d'utiliser un portable avec les 2 puces.
Oui.
Mais pourquoi est-ce que c'est le cas que l'écriture qui est fait par soit la main droite, soit la main gauche, si quelque chose nous empêche d'utiliser cette main, pourquoi c'est si difficile de l'utiliser de l'autre main? Pourquoi la latéralisation est si dominante par rapport à l'écriture?
La latéralisation est plus difficile quand on a ses 2 mains. On voit par exemple dans les situations où un enfant malheureusement perd sa main ou perd l'usage de sa main, comme dans un plexus ou une main amputée, il se latéralise très vite et très bien. Il retrouve la même force qu'il pouvait avoir avec sa main dominante, la même dextérité. C'est le fait d'avoir 2 mains qui retarde un petit peu la latéralisation, qui la rend un petit peu plus difficile.
Ouais. Chloé justement dit, je suis la maman d'un enfant né avec une agénésie de la main droite. Quel impact le manque de ce membre si important a-t-il sur son cerveau, pour prolonger ce que vous nous dites?
C'est un petit peu, il faut l'avoir dans le sens inverse. S'il a une agénésie d'un côté, ce petit garçon va probablement être beaucoup plus habile de sa main restante, bien évidemment. La main qui reste, il va facilement se latéraliser et occupera une place majeure dans son cerveau. C'est ce qui se passe quand on perd un sens et qu'on gagne dans l'acuité de tous les autres.
Pour illustrer notre discussion, évidemment, extrait du film de Tim Burton, Édouard aux mains d'argent.
J'ai pas sommeil. S'il te plaît, raconte.
Bon, si tu y tiens.
Il faudrait sans doute pour commencer que je te parle de ciseaux.
De ciseaux?
Et une fois, il y a même un homme qui avait des ciseaux à la place des mains.
Un homme?
Oui.
Des mains et des ciseaux?
Non, des mains-ciseaux. Tu connais le château au sommet de la montagne. Un inventeur habitait dans ce château. Il a dû inventer des tas de choses, j'imagine. Il a en tout cas créé un homme qui ressemblait à tous les hommes. Il lui a donné un cœur, un cerveau, tout quoi. Enfin, presque tout.
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce sont vos mains. Ce sont vos mains.
Voilà, Johnny Depp, Édouard aux mains d'argent. Est-ce que ce film, justement, fait partie d'Ariane Leader, de votre palmarès de films concernant les mains ou pas? Parce que vous êtes un grand amateur de...
C'était dans ma valise.
Ah, justement, la fameuse valise de la douane.
Ce qui est intéressant dans ce film, c'est le côté des mains qui ont des effets plutôt dangereux. Mm-hmm. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas avec notre volonté consciente. Et ça se voit aussi dans le film Disney, La Reine des Neiges, qui a eu un succès fou mondial. Là aussi, ça parle des mains qui ont des effets qui vont contre ce que veut au niveau conscient la personne. Ça a des effets dangereux, même létals.
Benoît nous dit, pourquoi avons-nous 5 doigts à chaque main? Pourquoi pas un de plus ou un de moins alors, Adil Trabelsi?
Alors un de plus ou un de moins, ça peut effectivement être le cas sur soit des agénésies, soit des hyposgénésies, mais également des polydactylies, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent avec 6 doigts, avec 7 doigts, souvent avec un caractère familial. Ça ne change pas grand-chose à la fonction de la main, à leur dextérité. C'est pas parce qu'on a 6 doigts qu'on sera plus habile que quelqu'un qui en a 5. En réalité, il y a 5 doigts, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y en a 4 doigts longs et un pouce qui n'est pas dans le même plan, qui n'a pas la même fonction. Le tout étant le but étant l'appréhension. C'est vrai qu'on fait le service après-vente, mais on n'a que les données constructeurs.
Qu'on retrouve chez certains grands singes aussi. Ce message d'Aurélien, pouvez-vous nous dire pourquoi donner un coup de main est positif alors que donner un coup de pied est péjoratif? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une réponse? D'Ariane Leader, par exemple?
Un coup de main et un coup de pied, ça peut avoir dans certains contextes et des associations positives et négatives. Mais c'est intéressant comment les gestes corporels changent d'une culture à l'autre, d'un moment historique à l'autre. Par exemple, serrer la main, maintenant c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. Il y a 100 ans, on a ridiculisé ça par rapport aux Anglais. Les Français appelaient les Anglais au 19e siècle les handshakes parce qu'ils avaient des tendances à serrer la main de tout le monde. Là, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on pense que les Anglais sont très réservés au niveau des gestes corporels, tandis qu'il y a 300 ans, les Anglais embrassaient les gens même sur la bouche.
Oui, donc les choses changent effectivement. Jean-Luc nous dit, je suis enseignant au lycée professionnel, tourneur-fraiseur, et j'ai toujours été fasciné par la relation dans les apprentissages entre la réflexion et l'action donnée à la main. J'aurais aimé aussi faire un mémoire sur ce thème, mais peu d'intérêt il y a 20 ans sur cet axe. Adil Travel, si vous voulez en dire un petit mot.
Et il est bien évident que dans les lycées professionnels, on apprend à la main à obéir au cerveau, puisque l'idée doit venir du cerveau, le projet doit venir du cerveau, et tout ce qui se travaille, c'est ce passage entre l'idée et la réalisation de ce projet. Cette réalisation passe effectivement par le travail répétitif, par la dextérité, ça s'apprend, la dextérité, ça se travaille, c'est comme la mémoire.
D'Ariane Leader, pardon, vous consacrez un chapitre à un thème qui, évidemment, peut faire sourire quand on évoque les mains, parce que régulièrement, il y a des esprits mal placés qui tout de suite disent « Haha, vous allez parler de la masturbation », mais vous évoquez, et vous lui consacrez d'ailleurs pas mal de place dans cet ouvrage. Vous aviez observé d'ailleurs les réactions autour de vous lorsque vous indiquiez que vous alliez écrire un livre sur les mains.
Quand j'ai dit à mes amis et mes connaissances que je travaillais sur les mains, presque tout le monde a dit « Ah, chouette, un livre sur la masturbation
». Oui, c'est vraiment association directe. Alors.
Ah oui, absolument, absolument. Ce qui est intéressant là, c'est le fait que pendant l'histoire, on a souvent fait l'éloge des mains comme un organe presque divin. C'est ce qui différencie des bêtes, etc. Pourquoi? Parce que la main, c'est quelque chose qui touche et en même temps peut se sentir touché. Donc il y a un côté réflexif de la main. Mais ce qu'on voit de façon très intéressante, c'est que dans la masturbation, il y a un effacement sensoriel de la main. Pourquoi on ne ressent pas la main pendant la masturbation? Et donc, ça ouvre sur beaucoup de questions sur la stimulation des différentes parties du corps. Il se trouve que même que les mains sont absolument pleines des récepteurs très très fines, en même temps, c'est une partie la moins sensible du corps si on fait ce qu'on appelle la double stimulation, c'est-à-dire si on stimule la main et le visage ou l'oreille en même temps, la main va être beaucoup moins sensible que les autres parties du corps.
Et c'est le fait de focaliser sur un autre objet que la main, justement, qui fait qu'on la sent moins.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans un modèle de la connaissance humaine, il faut mettre moins l'accent sur le fait qu'on reçoit des messages du monde sensoriel, qu'il y a un système très complexe des effacements entre les inputs sensoriels, entre les messages qu'on reçoit.
Adil Travel, c'est encore un coup du cerveau hein, là-dessus.
Absolument. C'est le principe du double stimulus, c'est-à-dire qu'il y a une stimulation d'une zone érogène qui prend le pas sur la véritable la main touche, mais d'un autre côté, c'est pas le moment. Laisse-moi tranquille, en gros. C'est-à-dire que le stimulus érotique est bien supérieur au stimulus de la main en tant qu'organe d'essence. Donc l'un éteint l'autre, ou du moins l'un prend le pas de l'autre dans le cerveau.
La psychanalyse a permis d'effacer justement la connotation péjorative de la masturbation, d'Ariane Leader.
Je pense que c'est un des seuls résultats vraiment internationaux de la psychanalyse au début du XXe siècle.
C'est vrai.
C'est-à-dire que la masturbation a vraiment perdu les connotations trop négatives. Ça, c'est un résultat de rapport entre psychanalyse et pédiatrie.
Et on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion et toujours les messages des auditeurs après IBI et Away Away.
De tes mains sur mes doigts de pied.
Ouais! Ouais, immédiatement!
N'aie pas peur, c'est mon mari.
Pourrais-je savoir, monsieur, pourquoi vous êtes enfermé à clé dans la chambre de ma femme?
Moi?
Oh, non, monsieur.
Mais non, mon chéri, voyons, c'est Mario. Mario, le coiffeur.
Ah, c'est Mario.
Mais oui!
Le fameux, l'unique, le célèbre Mario, celui qui affole toutes nos femmes. Voici donc l'homme aux mains vibromasseuses, l'homme aux doigts donneur de grands frissons. Hein? Mario, eh bien, faites-le donc voir ces mains qui ensorcellent nos femmes.
Vous savez, ces mains, elles sont bien quelconques et bien innocentes.
Voilà, Fernandel, coiffeur pour dames, 1952, hein, pour parler de la main aujourd'hui avec mes invités Adil Travelsi et Darien Leader. Vous l'avez vu ce film, Adil Travelsi, hein ?
Oui, tout à fait, je l'ai vu, j'étais tout jeune et j'avais adoré, et j'avais même pensé à un moment être coiffeur finalement.
C'est vrai ?
Eh bien, si j'étais né au temps d'Ambroise Paré, j'aurais été en même temps barbier et chirurgien.
Oui, mais vous êtes devenu chirurgien de la main quand même, donc comme quoi ça vous a marqué, il y a peut-être le côté comme ça, pouvoir de séduction, on va faire appel au psychanalyste.
C'est l'enfance là, le pouvoir de l'enfance.
Exactement, voilà, pour parler donc de la main avec vous cet après-midi, les mains, ce que nous faisons d'elles et pourquoi, c'est chez Albin Michel, d'Ariane Leader. Au cours de l'évolution, ça aussi, ça vous intéresse cet aspect-là, l'évolution de la main. l'humain, chez
tout
l'homme en particulier, depuis le primate. Hein.
Toute la question dans l'évolution, c'est quel était l'effet du moment quand les hommes ont descendu des arbres. Donc, on utilisait les mains avant pour supporter le corps contre la gravité, d'allant en branche, et là... En nous retrouvant par terre, quand on est devenu des créatures terrestres, que faire avec les mains? Et on peut voir ça soit comme un moment continu de l'évolution, soit comme je pense l'ont fait pas mal de paléontologues plus récemment, comme un moment de déconnexion radicale entre l'homme et son environnement. Et il y a des arguments récents qui vont dans le sens que c'est ce moment de déconnexion qui a vraiment stimulé la croissance du cerveau.
Ouais, et ça a été absolument prépondérant dans l'histoire humaine, parce que évidemment, de cette libération au fond de la main qui s'accrochait aux branches est née aussi la créativité et la création des objets, hein,
oui,
et des
ça,
outils.
Et ce moment-là, a peut-être, ça nous a laissé peut-être avec une question qui reste actuelle, que faire avec nos mains?
Ouais.
Donc, peut-être on n'a pas encore trouvé une solution.
Ouais. Donc la bipédie nous a permis aussi d'accéder à des innovations technologiques très nombreuses.
Je pense que ce n'est pas seulement une question d'être sur les deux pieds et pas sur quatre, mais le fait que maintenant on ne savait pas quoi faire avec les mains.
Mm-hmm.
C'est cette angoisse, ce vide a peut-être produit quelque chose.
Ah, c'est votre analyse ça justement?
Oui, mais tout à fait. Ouais. C'est pas mon argument, c'est un argument qu'ont fait des paléontologues récemment. Mais c'est l'idée qu'il y avait une espèce de moment d'angoisse dans l'histoire de l'humanité au lieu d'une histoire d'évolution continue.
Ouais, Adil Travelsi, évidemment, la main en tant que telle est un objet, un outil aussi absolument fascinant quand même.
C'est ce qu'on appelle l'instrument des instruments. Et effectivement, le passage de la marche à quatre pattes à la marche à deux pattes a libéré la main et à partir de là a permis justement de faire de plus en plus de choses. Alors Darian a peut-être raison, c'est probablement on s'est demandé à ce moment-là sur une grande échelle qu'est-ce qu'on fait de nos mains actuellement. Mais je pense qu'on a quand même pas mal évolué grâce à ça.
On a trouvé quelques idées quand même, évidemment.
On a trouvé les portables
à s'en passer aujourd'hui. En ce qui concerne la main artificielle, on en est où justement? Parce que c'est toute la difficulté de reproduire cet organe hypersensible, hein.
Alors la main artificielle est effectivement quelque chose qui intrigue les médecins et les chirurgiens depuis des décennies, je dirais. Et on a quand même bien avancé dans ce domaine en termes de mobilité, de motricité, même en termes de pression, de capteurs de pression pour savoir là où il ne faut pas trop appuyer, dans quel domaine, etc. Ce qui reste le plus difficile à obtenir, c'est la main en tant qu'organe d'essence, c'est-à-dire qu'organe sensoriel du toucher. Et là, je pense qu'on avance, on y arrivera. Mais on en est encore là à tout un tas de petits problèmes qu'on n'a pas résolus sur la sensibilité.
Ouais, donc il y a une complexité folle à vouloir reproduire une main. Elles sont modélisées aujourd'hui justement pour comprendre toutes les différentes zones.
Absolument, elles sont totalement modélisées, mais ça reste quelque chose de difficile, de très difficile à faire. Mmh. Il faut savoir que en France par exemple, on s'intéresse à la main de façon assez prégnante que depuis les années 60 en fait. Il s'est créé ce qu'on appelle le GEM, le groupe d'études de la main. 5 chirurgiens pionniers ont créé cela. Et c'est à partir de là que la prise en charge de la main en tant qu'organe à part entière a commencé.
Et vous dites d'ailleurs dans les services d'urgence, il y a encore un petit peu cette tendance à délaisser, en tout cas à ne pas sentir précisément l'importance de la prise en charge de la main.
Alors ça va bien sûr, heureusement, beaucoup mieux. Il y a une fédération avec 65 services SOS main en France, ce qui prouve bien que, aussi bien au niveau structure qu'au niveau technicité, on avance quand même vers la prise en charge de la main en tant qu'organe à part entière. Puisqu'il y a des techniques qui sont quand même particulières pour réparer les différentes lésions de la main.
Darian Leader, vous qui décrivez donc une époque particulière hein, autour de la main, avec un certain nombre de changements, une main artificielle, là ce serait aussi un nouveau cap très important pour l'humain.
Oui, tout à fait. Mais toute la question, c'est si on n'oublie pas qu'une des fonctions de la main, c'est de faire avec l'agitation interne du corps, de la tension qui nous habite, quel rôle pour les mains artificielles? Comment est-ce qu'on peut utiliser une main artificielle pour gigoter, pour érafler, pour frictionner? C'est-à-dire de faire des choses que nous ne voulons pas faire au niveau conscient.
Ben, l'idée, ce serait de pouvoir y parvenir, justement. Hein, dans
bien
l'idée
évidemment
main,
que si on finit par avoir la main artificielle parfaite, elle sera...
Elle pourrait avoir ces fonctions-là
elle pourrait,
aussi.
Mais elle a d'abord une fonction d'outil en premier, et puis après, si effectivement elle est véritablement connectée au cerveau comme une vraie main, elle finira par effectivement tripoter un mobile ou faire quelque chose pour ne pas rien faire.
Ouais. Elisabeth nous dit, droitière, je m'efforce chaque jour d'acquérir autant de dextérité de ma main gauche, craquer une allumette, me coiffer, éplucher, je ne vais toutefois pas jusqu'à l'écriture. Pensez-vous que cet apprentissage a un réel impact sur mes neurones? C'est amusant quand même de se forcer à faire ça, non?
Ça n'a pas d'impact sur les neurones. Néanmoins, il faut savoir que vous avez un petit handicap par rapport à quelqu'un qui est gaucher, puisqu'il n'y a qu'un seul hémisphère de votre cerveau qui commande la main, alors que le gaucher a les deux hémisphères qui fonctionnent. Donc ce sera plus facile pour un gaucher d'écrire de la main droite que l'inverse. Il est bien évident que la capacité d'adaptation lorsqu'une main disparaît de la cartographie du cerveau, elle est très importante. C'est-à-dire qu'on arrive à se latéraliser lorsqu'on est amputé d'une main et on arrive à faire exactement la même chose de la main qui nous reste.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Darian Leader, cette auditrice qui cherche à avoir les deux mêmes agilités
Oui, ça me fait penser aux expériences récentes qu'on a fait en Suède avec les membres fantômes. C'est-à-dire qu'on a fait une espèce de boîte en bois où on ne peut pas voir sa main. On brosse la main avec des mouvements qui caressaient la main. Et en même temps, avec une autre brosse, on faisait exactement les mêmes mouvements au-dessus de la boîte en l'air. Et on a vu que la plupart des gens ont localisé leurs sensations, pas dans leur main, mais dans cette main invisible en l'air. Donc ça veut dire que les gens même qui avaient des mains peuvent avoir un membre fantôme, une main fantôme.
Ouais. Et là encore un coup du cerveau, évidemment.
Hein. Absolument. Dans ce contexte, je voulais juste raconter une petite anecdote, c'est que quand on opère une main, la plupart du temps on l'opère sous anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire qu'on on endort le bras entièrement. Et une fois que le bras est endormi, on a déconnecté donc la main du cerveau et le patient a souvent tendance à poser la même question, est-ce que mon bras est en l'air ? Non, votre bras n'est pas en l'air, mais c'est la dernière image que le cerveau en a gardée. C'est-à-dire qu'au moment où on leur a fait leur anesthésie, il y a eu un instantané, c'est la dernière information qu'ils ont reçue de la main au niveau du cerveau, et ils ont l'impression que leur bras est en l'air, alors qu'en fait, il est tout simplement posé sur la table puisqu'on est en train de l'opérer.
François, Jean, beaucoup de questions sur la maladie de Dupuytren et les problèmes du canal carpien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot à ce sujet ?
Alors le canal carpien, c'est le mal du siècle. Il s'opère 140 000 canaux carpiens par an en France, ce qui n'est pas rien. Alors c'est probablement lié, en tout cas en partie, aux nouveaux troubles musculo-squelettiques dans ce que nous faisons.
Qui explose ou pas
C'est en pleine explosion. Et ce qui est encore plus en explosion, c'est le lien qu'il y a entre les canaux carpiens et les postes de travail, les troubles musculo-squelettiques, les maladies professionnelles. Donc il y a effectivement une explosion. Les gens sont plus sensibilisés et donc arrivent à reconnaître leurs symptômes, donc consultent plus facilement. Il n'en est pas moins que le canal carpien, c'est l'intervention de loin la plus pratiquée actuellement en France.
Il faut opérer ou pas? C'est la question qui revient aussi beaucoup.
Alors, il faut opérer lorsque le patient est très gêné et surtout lorsque l'électromyogramme quantifie, parce que c'est une compression nerveuse. Et donc, l'électromyogramme permet de dire à quel stade le nerf est comprimé. Il faut bien évidemment ne pas laisser un nerf comprimé longtemps sous peine de perdre sa sensibilité de façon irrémédiable.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On peut poursuivre donc la discussion en lisant ce livre. En tous les cas, Darian Leader s'appelle « Main » au pluriel, ce que nous faisons d'elle et pourquoi. Ça vient de paraître donc chez Albin Michel. Et puis Adèle Traversy, donc, qui est à la Fédération des services urgences main, dont vous êtes le secrétaire général, et puis également SOS Main à Avignon. Merci beaucoup à tous les deux. C'est terminé pour cette tête au carré. Clément Huillet et Sacha Trop étaient à la technique. Demain, dernière mission pour Cassini. Avant de mourir dans l'atmosphère de Saturne, on va vous raconter toute la grande saga de cette sonde qui a même réussi à se poser avec Huygens sur Titan, la lune de Saturne. Ce sera demain donc dans l'émission.